musique avec Serge Lacasse et Gérald Côté. Parlons musique.
Ben bon matin, Serge.
Hey, salut, Gérald. Tu vas bien?
Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on est rendu à 11 ou 10?
Oui.
Je pense que c'est 11. C'est... Non, on prépare la 11e.
Non, en ce moment, c'est ça. C'est le 11e épisode que nos auditeurs écoutent.
Oui, que, en tout cas, en réalité, que nous, on enregistre.
Puis notre...
Avant que nos auditeurs puissent y accéder.
Oui. Puis notre défi ce matin, c'est de réussir à les garder avec nous jusqu'à la fin.
Oui.
Puis toi, tu m'as suggéré un sujet ce matin qui est création et production.
Oui, un peu les deux semblent s'opposer dans les esprits.
Mm-hmm.
C'est quelque chose qui m'a intéressé. D'ailleurs, j'en ai écrit plusieurs pages. En fait, c'est pratiquement le sujet de ma thèse de doctorat.
OK.
Et ça s'appelait processus de créativité, musique populaire et processus de création. Puis il y avait un sous-titre, un exemple de métissage à la québécoise. Donc, création mm-hmm. comme processus de métissage et puis production, ben, parce qu'on passe par un format, par une mécanique particulière qui inclut l'enregistrement en studio, les arrangements, un public cible, etc. Et bien des choses là, relatives à cette dynamique-là qu'on appelle la production.
C'est intéressant dès le début. Je trouve ça intéressant comme sujet. Je vais te raconter une anecdote. Puis okay. Tu me diras ce que tu en penses. Si ça reflète un peu l'esprit de cette apparente dichotomie entre création et production. À un moment donné, j'avais créé des nouveaux cours pour un programme en technologie. Puis donc, y a des collègues qui s'opposaient à ce que ce soit des numéros de cours qui commencent par MUS parce que la production n'était pas de la musique. C'était pas considéré comme de la musique, c'était considéré comme de la technique et donc on pouvait pas mettre ça parmi nos cours en musique.
Oh, et, intéressant.
Oui, puis je comprenais leur point de vue. J'ai pas de problème à comprendre leur point de vue, mais visiblement, il y avait peut-être un problème à comprendre le mien. Puis,
c'est bien dit.
Oui. Donc, il a fallu vraiment qu'on travaille assez fort pour faire admettre ça, pour comprendre qu'avec l'évolution des technologies, bien évidemment, ça devient. Puis même, ça fait longtemps que c'est devenu un outil de création. Donc, ma question, Gérald, comme d'habitude, c'est quoi pour toi alors la création? C'est quoi pour toi la production?
Moi, je pense que les deux sont nécessairement indissociables. Lorsqu'on parle de production, on parle d'un mode de travail pour en arriver à un type de format qui, lui, va rejoindre une époque, une période, un public. Donc, si on transfère ça, par exemple, à la production de musique baroque, parce que c'était de la production, c'était des commandes assez serrées. Je pense à Louis XIV, par exemple, lorsqu'il faisait une commande et puis ça ne correspondait pas à son pas de danse. Laisse-moi te dire que le Jean-Baptiste Lully, il en shakait dans ses pantalons.
Le salaire était un petit peu coupé.
Oui, c'est ça. Puis bon, le roi n'était pas de bonne humeur cette journée-là. Mm-hmm. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ça de la production? Parce que c'est exactement la même mécanique, à mon avis, que d'enregistrer un disque et de cibler un public, ou en tout cas, plaire à un public, que ce soit Louis XIV, que ce soit un public populaire, avec un format qui, lui, leur parle.
Okay, donc,
on ne peut pas prendre n'importe quel format pour n'importe quel public.
Je comprends. Donc, tu vois production dans le sens presque de la création au service d'un objectif précis.
Je vais aller plus loin, oui. Puis je vais aller plus loin. Il y a probablement le mot production appliqué dans le contexte que tu l'as bien introduit, là, relève, à mon avis, de préjugés.
Mm-hmm.
Parce qu'on a voulu, à partir d'une certaine époque, le marxisme de bien tasser la musique populaire dans un coin, là. Cette idée où il y a une œuvre d'art, et que elle s'oppose nécessairement, l'artiste s'oppose comme créateur, que ce soit musicien ou peintre, à tout ce qui est, je dirais, production populaire. Il y a comme une dichotomie entre le populaire et l'élite. Mm-hmm. Bon, tout le 18e, 19e, bon, c'est notre héritage, tout ça. Puis ça commençait à casser, je dirais, au 20e siècle, tranquillement, bon, fin du 19e, en introduisant des airs populaires dans la musique classique, et puis et d'une façon beaucoup plus, je dirais, spectaculaire avec le pop art à la fin des années 60. Mm-hmm. Donc, cette division classe sociale, d'ailleurs, aussi, bon, les Beatles en sont aussi un exemple, là, si on peut dire, lorsqu'on pense à cet épisode particulier où la reine d'Angleterre assiste à un concert des Beatles, ce qui était populaire à travers le monde, et que John Lennon leur dit, avec un petit sourire en coin, ben là, que les gens qui sont en avant, au lieu d'applaudir, vous pouvez faire bouger vos bijoux si vous êtes content, mmh. et pour les autres, vous applaudirez. Mmh. Il y avait deux classes sociales évidentes encore à rejoindre. Bon.
Je comprends. En fait, ça évoque aussi, je trouve, deux autres types d'opposition qui sont proches, hein, puis qui sont souvent confondus, puis qui sont souvent mis une au service de l'autre dans l'argumentation. Oui, populaire, on va dire savant, mais il y a ça, divertissement versus art, mm-hmm. puis il y a commercialisation versus art pour art aussi. Là, puis donc, le commerce, le divertissement, puis le populaire vont très bien ensemble, puis on utilise ces trois-là pour, justement, souvent, pour dévaloriser ces productions-là. Puis on va justement utiliser le mot production dans le sens d'une production à, comme par exemple on produit dans des usines des voitures, je pense là à Adorno, c'est exactement ça qui a fait le corollaire, qui a fait dans son argumentation contre mm-hmm. la valeur de la musique populaire, c'était de dire c'est de la musique faite en série, comme dans les usines, il y a deux, trois accords, puis on les réutilise, des formes qu'on réutilise, puis on construit là-dessus des nouvelles choses avec des tout petits éléments. Donc, c'était le concept de la standardisation, mmh. puis du minimum de variation, puis qui faisait en sorte que comme ça, on pouvait sans arrêt nourrir une masse informe avec des choses qui allaient naturellement leur plaire et donc comme ça pouvoir satisfaire des besoins capitalistes. Donc, c'est vraiment l'argument d'Adorno. Mm-hmm. Comme si la musique classique n'avait pas des formes, comme voilà. Le rondo, la sonate, peu importe.
La répétition dans la musique baroque,
etc.
C'est pas difficile à retrouver.
C'est ça. Puis, en tout cas, donc, bref, tout ça, c'est une vision moderniste de la musique.
Idéalisée, on pourrait dire.
Oui, idéalisée. Puis l'objectif, c'est de faire en sorte, comme dans tout l'art, en fait, le moderne, c'était l'idée de pas penser à que ce soit connecté à l'humain si fort. C'était presque comme au Moyen-Âge, que plutôt que d'être Dieu, c'était l'art pour l'art, mais c'est la même idée. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est au-dessus de l'humain, puis au-dessus des basses, des bas besoins pécuniaires et autres. Puis voilà.
Oui, mais c'est intéressant parce que ce paradigme-là de art pour art, pour moi, c'est toute une imposture. Mm-hmm. C'est une imposture parce que, bon, premièrement, pour faire de l'art, ça prend un artiste. Mm-hmm. Donc, déjà, en partant, on est en plein domaine de subjectivité, même si il y a une attitude désespérée de vouloir être pas comme les autres. Mm-hmm. Dans le concept d'art pour l'art, je dirais.
Oui.
Mais il y a aussi un public visé. S'il n'y a pas de public, ben, qui lui s'attend à que ce soit un format ou un non-format, Il s'agit d'une production qui vise à rejoindre les idéaux, l'esthétique d'un groupe de personnes. Donc, mm-hmm. que ce groupe de personnes-là soit des danseurs populaires ou que ce groupe de personnes soit des danseurs sur la à la place des arts, pourquoi on fait cette distinction entre production, création? Les deux relèvent de l'esprit humain qui crée pour un format particulier et pour un public particulier et pour des musiciens ou danseurs particuliers.
Mm-hmm. Oui, ouais, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis ça me fait penser à Becker dans son livre Les mondes de l'art ou Le monde, non, Les mondes de l'art, dans lequel il explique d'une manière très claire qu'on ne peut pas retrouver, par exemple, un artiste qui fasse une œuvre tout seul, séparé. Parce que c'est jamais comme ça que ça se passe. C'est à l'intérieur d'un grand, grand réseau de personnes, d'institutions, voilà. De conventions qui régissent toutes ces relations-là. Donc, s'il écrit sur du papier à musique, ben, ça a pris une histoire pour pouvoir réussir à inventer cette forme d'écriture-là. Puis ensuite, ça prend une usine pour imprimer. Puis ensuite, voilà. Ça prend des crayons. Puis si tu fais ça sur l'ordinateur, ben, on n'en parle même pas. Mm-hmm. Puis ensuite, évidemment, qu'il y a tout le réseau des influences. Puis il y a aussi les institutions qui sont, entre autres, les écoles dans lesquelles il est ou elle est passée ou pas passée. Il y a aussi, évidemment, les commandes. Voilà. Bon,
tu es presque en train de me raconter la structure des chapitres d'un livre d'Antoine Aignon.
Ah oui, La passion musicale.
Exactement.
Ah oui, c'est un superbe livre, ça aussi. Puis, exactement, puis c'est dans la même idée, en fait. Bon, c'est pas la même approche, là, mais...
Il parle essentiellement de musique populaire dans le contexte contemporain, entre autres. Là.
Oui, puis il n'y a pas dans celui-là qu'il y a un chapitre à la fin où il compare, je dois me mêler là, avec un autre écrit qu'il a fait, mais où il compare le comportement du public en classique, dans un concert classique, puis dans un concert rock. Peut-être c'est dans de l'histoire au mythe plutôt. Là, que...
Oui, si je ne me souviens pas. Puis il y en avait un autre aussi. Là. Il y en a trois principaux. Puis je t'avoue que les titres m'ont sorti.
Les figures de l'amateur.
Oui. Ouais. Non, en tout cas. C'est pas.
Les professionnels du disque.
Oui, celui-là. Bon, ouais. Merci.
Mais ça il a fait un peu comme toi. C'est-à-dire qu'il est allé dans le studio. Puis lui, pas pour les mêmes objectifs, mais il a fait une petite enquête ethnographique aussi pour voir comment Exactement. Se déroulait la création. Ou la production en studio,
ouais.
quoi.
Mm.
Oui. Puis toi, comment... Ouais. Qu'est-ce que... Ben, d'ailleurs, pour ta recherche, quand tu es allé en studio pour aller observer puis tout ça, là, pour ta thèse, mm-hmm. À quoi tu t'attendais? Puis est-ce que tes observations ont confirmé ou si c'était comme ça arrive parfois, plus nuancé que tu pensais ou... Comment ça s'est passé?
Ben, une de mes intentions était justement, ça va avec le thème de ce matin, était de voir, de constater s'il y avait vraiment cette dichotomie en création-production. Et les deux sont nécessairement imbriqués ou indissociables. Cette dichotomie-là provient davantage pour moi d'une vue, d'un point de vue idéalisé des choses où la création est supérieure et la production est inférieure dans une vue un peu élitiste là, de la création, la production artistique. Donc, il y avait un peu de ça dans mon esprit et c'est ce qui m'animait, entre autres. Parce que c'est indissociable, quelle que soit l'époque. Mm-hmm. Quel que soit le contexte, quelle que soit la technologie, qu'on prenne un violon puis qu'on l'accorde de telle façon, puis qu'on le fabrique de telle façon, on fait allusion à Stradivarius par exemple, c'est une forme de production pour en arriver à un format, à un son, à un standard qui n'est pas la vérité absolue.
Un autre exemple, c'est Stravinsky. Stravinsky qui a dû composer des œuvres dans une durée déterminée pour que ça puisse entrer dans un 78 tours.
Oui, oui, à partir d'une certaine époque, évidemment, ben oui. Si vous voulez enregistrer, il fallait qu'il respecte la technologie, mais c'est la même chose que créer pour un violon. Il y a des choses que tu peux pas faire.
Voilà.
Lorsque tu crées pour un violon que pour une flûte, ou de toute façon, il fallait une adaptation qui s'intégrait au processus créatif lui-même ou de production, si vous préférez. C'est pour ça que les deux termes, lorsqu'on les met en opposition, je demeure perplexe.
Je comprends. Ben écoute, j'aimerais ça essayer qu'on fasse justement une petite définition quand même, là, comme j'aime, de création, par exemple. Donc, création, moi, ce que je comprends, puis tu me diras si c'est la même vision de la définition, c'est vraiment cette vue-là plus romantique, on va dire, de quelque chose qui est à peu près, qui émerge à peu près ex nihilo dans l'esprit d'un compositeur ou qui est touché par quelque chose, tu sais, par ce qu'on appelle l'inspiration, donc quelque chose d'extérieur à nous, puis que là, tout à coup, on va pouvoir comme ça amener une œuvre à émerger puis à pouvoir être éventuellement entendue. Donc ça, c'est une vision très romantique, mais qui est la même un peu que celle là, du regard, souvent qu'on entend du regard de l'enfant qui voit une sculpture puis qui dit « Ah, elle était cachée dans la pierre, ta sculpture, puis toi, tu étais... » Tu sais, cette vision-là, qui est bien cute, là, mais qui est une vision très romantique de l'esprit créateur. Donc quand
Le Mozart, là, que ça sort tout seul et ça vient directement des dieux.
Voilà. Puis donc, cette idée-là de la création, ça n'enlève rien à la qualité des individus qui sont capables de peindre ou qui sont capables de... C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est l'espèce de halo, l'espèce de aura qu'on donne à cette idée-là de création individuelle. Hein, c'est ça souvent qui est... D'ailleurs, on a un mot, une expression pour désigner quand c'est pas individuel, puis on appelle ça de la création collective. Mais souvent, c'est lié à un individu qui va réaliser une œuvre d'art indépendant du contexte. Souvent, c'est ça aussi qui est suggéré ou en tout cas qui est un peu véhiculé par une expression comme ça. Est-ce que ça rejoint pas mal ta compréhension de ce que les gens voient comme étant la création puis un créateur?
Oui, ben en fait, c'est un peu, comment je pourrais dire, je suis pas tout à fait neutre dans l'idée de ce que tout le monde croit sur ce que c'est le processus créatif, parce qu'en fait, je suis allé au fond, le plus possible dans le fond des choses, parce que j'ai fait mes recherches là-dessus, puis le processus créatif est le même dans tous les domaines.
Ben oui, ben ça c'est ça.
Donc il y a quatre étapes, mais il y a l'incubation, donc ça c'est le moment où... les idées viennent, vont finir par émerger. D'ailleurs, Félix Leclerc, il parlait de puits, lui, lorsqu'il parlait de création. Il disait que lorsque l'eau du puits est dans son fond, là, lorsqu'il n'y a presque plus d'eau, puis qu'on continue à boire, il va y avoir un peu de sable. Donc, si tu laisses le puits remonter avec la pluie et tout ça, ben là, le sable va descendre dans le fond et ton eau va être claire. Donc, pour lui, il expliquait là, le moment d'incubation. Ce sont des étapes qui ont été définies par des psychologues en créativité, comme Mihaly, un spécialiste là, à Chicago. Donc, incubation, première étape. Deuxième étape, inspiration. Une étape un petit peu floue, parce que, bon, inspiration, c'est impalpable, on peut pas tenir ça. Après ça, il y avait la réalisation. Ça, c'est plus concret. La réalisation, lorsqu'on s'installe devant notre table, on se met devant notre guitare ou la feuille d'écriture, etc. Là, on réalise la chose. Et après ça, la dernière étape, le quatrième, c'est le peaufinement, parce que le premier jet n'est pas toujours vraiment parfait. On a juste regardé, par exemple, les fameuses partitions de Beethoven, où c'était plein de gribouillis on a toujours parlé du mythe de Mozart où il criait dans un premier jet, mais là, permettez-moi d'en douter. Il y a des fois qu'on peut dire que l'inspiration nous donne quelque chose de fini, mais lorsqu'il faisait l'orchestration puis l'arrangement, j'imagine qu'il devait travailler un petit peu, mais Wolfgang. Mm-hmm. Mais bon, voilà. C'est ça, ces quatre étapes de la création, moi, je le conçois comme ça, et c'est vrai pour toutes les formes de créativité, et ça, c'est un processus, je dirais, inhérent à l'être humain.
Bon, puis là, tu as énoncé un terme aussi qui m'intéresse, c'est le mot créativité, qui est différent du mot création, dans le sens que la créativité, on peut en avoir, par exemple, un comptable peut avoir de la créativité dans la manière de trouver des moyens pour ne pas être pris par l'impôt, mettons.
Voilà.
Non, mais je veux dire, la créativité, c'est simplement d'avoir de l'imagination d'une certaine façon, d'être capable de résoudre des problèmes par des voies qui ne sont pas évidentes, on va dire, ou en tout cas, bon.
Alors, c'est dans deux semaines qu'il faut remettre nos rapports d'impôts en passant.
Oui, c'est ça, je pense à ça, c'est ça, je comprends, je viens de le faire. Mais donc, alors que la création, on a en fait, quand on emploie ce mot-là, c'est plus par rapport à un processus, comme celui que tu as décrit, qui va mener à l'émergence de quelque chose. Puis là, si on est en art, ça va être ce qu'on appelle une œuvre d'art ou ce qu'on appelle, Sophie et moi, des productions de nature artistique, justement. Parce que œuvre d'art, ça a évidemment tout son lot, un très gros, il y a
moi,
beaucoup de connotations.
J'oserais dire prétentieux, en guillemets, mais bon.
Oui, c'est ça. Bon, ceci dit, en tout cas, je ne veux pas trop m'allonger là-dessus, mais donc créativité, création, c'est deux choses différentes. Création, on le voit plus, c'est un processus, un processus qui a des étapes que tu as décrites. Puis production, il y a aussi un processus. Dans la production, ça dépend de quel type de production on parle.
Ouais, pour moi, il est indissociable du processus créatif. Okay. Parce que tu dois accomplir, tu dois réaliser quelque chose de concret. Mais je vais apporter une nuance par rapport au comptable. Parce que d'un point de vue ontologique, dans l'analyse faite par les psychologues spécialisés sur le processus créatif, la création relève d'un processus de résolution de problèmes, en gros.
OK. Donc, c'est la même chose.
Le comptable, lorsqu'il se fait face à un problème, il met une mécanique. Il peut y avoir des processus créatifs accélérés parce que tu vas trouver ta solution rapidement. Mm-hmm. Et lorsqu'on est dans le domaine de l'art, lorsque Beethoven il griffonne certaines choses parce qu'il y avait des problèmes qu'il rencontrait à l'audition, dans son cas, je sais pas comment il pouvait faire, mais ça, c'est un beau débat aussi, là, et à cause de sa surdité, mais il les entendait. En les voyant, ces sons-là, lorsqu'il les voyait, lorsqu'il les percevait, il fallait qu'il corrige le problème, puis il le faisait. Donc, aussi, lorsqu'on se met à table pour inventer quelque chose, soit un peintre aussi, regarde ces couleurs-là, finalement, c'est pas fameux, l'agencement. Mais il ressort sa palette, il remélange les choses un petit peu, puis il continue. Donc, il résout des problèmes au fur et à mesure que son projet avance.
OK, donc, tu me dis que la créativité, puis en tout cas, la création a nécessairement besoin de créativité, qui est cette idée-là de résoudre des problèmes, mais il y a d'autres... il y a aussi de la créativité dans la production, puis il y a de la créativité dans n'importe quel aspect de notre vie, mais qu'en fait, la créativité incluant la création sont des processus de résolution de problèmes de nature.
Exactement. Exactement. Okay. Que ce soit le problème mettons que tu es dans un studio et là, tu es en train de faire le mastering, tu vas ajuster, mais ça fait partie du processus créatif, tu vas ajuster un peu telle bande de fréquence par rapport à une autre, pour pas qu'il y ait de conflit entre les différentes bandes de fréquence. Donc, tu es en train de peaufiner tes choses parce que il y a des problèmes, tu rencontres des problèmes dont tu cherches les solutions avec le technicien de son, avec les musiciens et tout ça, pour en arriver à quelque chose de le plus possible, terminé. Je pense que c'est vrai en peinture, c'est vrai en quelle que soit la forme d'art, que ce soit en danse. Lorsqu'il y a un pas que c'est un peu compliqué, finalement, ça passe pas autant que tu pensais, le message est moins bon, tu le corriges, tu l'ajustes, et puis c'est un processus de résolution de problèmes. On comparera pas le calcul d'une fraction avec des pas de danse, mais n'empêche que sur le point de vue ontologique, Mm-hmm. Créer, la créativité est un processus de résolution de problèmes.
Écoute, ton exemple du studio me fait penser à un beau moyen de montrer comment les deux peuvent être vraiment non seulement semblables dans leur processus, mais donc je parle de création de production, mais complètement intégrés. Donc, par exemple, tu rentres en studio. Puis là, il y a quelqu'un qui a déjà une chanson, qui a gratté sa guitare, il y a une chanson. Puis là, les gens arrivent en studio à des étapes différentes là, de développement. Bon. Mm-hmm. Tout ça pour dire que tout d'abord, là, tu sais, les éléments que tu as nommés tout à l'heure, souvent sont peuvent être même dans des ordres un peu différents ou réapparaître. Ce n'est pas des choses séparées. Là.
Non, effectivement.
Donc, ça peut être bon.
Donc, pas un processus nécessairement linéaire, là.
Voilà. Fait qu'imaginons qu'on a un auteur-compositeur-interprète qui rentre en studio, qui a des chansons, il y a des arrangements, hein, puis le monde sont relativement entendus sur comment on fait ça. Fait que là, il y a plusieurs manières de fonctionner. Soit on prend ce qui est joué tel quel, puis on enregistre ça, puis ensuite on met ça sur le marché. Ça arrive rarement. OK? Ça arrive très rarement même. Ce qui est plus typique, c'est qu'il va y avoir un réalisateur qui va être là, puis qu'ils vont travailler ensemble. Puis tout à coup, on se rend compte que cette section-là ne devrait pas aller là. Ou il ne devrait pas avoir, par exemple, le quatrième couplet, là, c'est trop long. Fait qu'ils vont retravailler, puis là, finalement, ils vont même soit le couper au montage, comme on fait au cinéma, ou soit ils vont retravailler la chanson, puis ensuite, ils vont refaire. Fait que souvent, on revisite des étapes de création antérieure au moment même du peaufinement, souvent, ça arrive.
Ah oui, c'est un processus de va-et-vient entre les étapes qui ont été émises. D'ailleurs, c'est ce que dit Csikszentmihalyi aussi. Mm-hmm. Il y a un va-et-vient incessant entre les différentes
exact.
Étapes.
Exact. Puis c'est intéressant. Puis ce va-et-vient-là, il est non seulement entre les étapes, mais il est entre les processus qu'on appelle de création puis de production. Puis il y a même des artistes qui, eux, sont dans le que leur outil de création, entre guillemets, c'est le studio. Je passe à la musique concrète jusqu'au techno. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment très lié. Si on associe évidemment production plus avec le matériel, avec le côté matériel, là. D'ailleurs, c'est ça, mais la définition que tu donnerais, toi, à production par rapport à ce à quoi les gens s'attendent. Là. Parce que moi, production, évidemment, comme je réalise en studio, c'est à ça que je pense. Mais tu penses à quelque chose de plus général. Là.
Oui, ben, je pense d'un point de vue, je dirais, ontologique. Mais d'ailleurs, juste faire une petite parenthèse. Mm-hmm. Pierre Boulez, un compositeur de musique contemporaine, considérait son œuvre comme jamais terminée. Il pouvait toujours y revenir. Mm-hmm. Donc, une approche philosophique, mais qui correspond pratiquement à ce que tu viens de nommer, par exemple, à un processus où on de va-et-vient en studio. Là.
Mm-hmm. Exactement. En fait, ça amène à une autre chose, c'est que on a cette conception dans notre monde, encore aujourd'hui, d'œuvre finie, de version finale.
Oui.
Alors que, comme Boulez, mais comme plein d'autres choses, là, dans tout ce qu'on fait dans la vie, souvent, on va revenir, on va le retoucher, puis ce n'est pas fini. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est pas tant l'œuvre finie que justement le processus.
Exactement. Ouais.
puis le processus, pas seulement de la création, mais aussi de la réception, puis le processus de la rencontre du public, puis de tout ce beau monde-là, à travers toutes les institutions qu'on s'est construites, dont on s'est doté. Donc, ça devient intéressant de voir que c'est là que ça vit, la musique.
C'est intéressant parce que dans le domaine de l'enregistrement, par exemple, l'enregistrement nous amène nécessairement un produit fini. Mm-hmm. On ne peut plus y revenir une fois que c'est enregistré et diffusé, la chose est fixe. Mm-hmm. Et ce qui est un petit peu, je dirais, le contraire du processus créatif. Et ça pose des problèmes parce que, à un moment donné, les artistes, après leur premier disque, ils sont comme coincés par rapport à la demande du public de recréer la même chose ou presque. Et là, ça floppe, hein. Les deuxièmes, troisièmes albums, on a l'impression que tout le monde finit par tourner en rond. C'est très rare qu'il va y avoir une production de 10 albums qui va toujours se renouveler.
Mm. C'est intéressant, ça, parce que ça touche à ce qu'Aignon appelle la discomorphose.
Mm-hmm.
C'est-à-dire notre habitude d'écoute causée par, justement, la fixation sur des enregistrements, puis qui Voilà. Qui donc produisent des effets comme celui que tu as décrit, comme celui aussi des artistes, des concertistes qui doivent de plus en plus être techniquement impeccables en concert pour pouvoir combler les attentes des auditeurs qui ont l'entendu sur disque. Mmh. Puis aussi, c'est ça. Donc, tout ce processus de discomorphose-là, oui, c'est un frein d'une certaine manière, mais sauf que l'humain, comme tu sais, est assez imaginatif. Puis qu'est-ce qu'ils font, tu penses, avec ça? Bon, ils font des remasterisations, puis après ça, il y en a qui font des remixes, ils reprennent des enregistrements, ils les transforment, ils en font autre chose. Puis là, il peut y avoir même pour une chanson, par exemple, je pense à Björk, qui a une de ses chansons, qu'elle a demandé, je pense, à 10 remixeurs de faire 10 remixes différents, puis on fait un nouvel album avec ces remixes-là. Puis encore Björk, elle a même fait des jeux, des espèces de jeux, pas un jeu vidéo, en tout cas, ça ressemble à ça, un espèce de DVD-jeu où tu peux avoir les pistes séparées, puis t'amuser à faire ça, puis... Puis pas juste elle, là, il y en a d'autres aussi qui ont fait ça. Donc, mais tout ce que ça montre, ça, à mon avis, c'est justement ce que tu as décrit, c'est la limitation imposée par l'enregistrement, mais qu'on va essayer de contourner par toutes sortes d'approches pour réussir à l'intégrer quand même dans cette idée-là de processus.
Tout à fait. Mais tu vois, tu sais des exemples contemporains, mais... Lorsque Jean-Sébastien Bach, par exemple, se cherchait un emploi à la cour, ou parce que bon, il travaillait pour l'Église aussi, puis pour l'Église, il trouvait ça un petit peu plus austère parce que les formats sont assez solides. Hein. Donc, à la cour, il y avait un petit peu plus de latitude pour la création. Donc, ce qu'il faisait, il faisait des medleys de pièces qui étaient très populaires à la cour. Il faisait une espèce de... C'est ça, un medley de enchaîné d'air populaire et qui envoyait ça au roi en vue d'avoir un travail ou plaire à sa majesté à l'époque. Donc, c'est un processus, c'est une façon, comment je pourrais dire, là, de faire qui est pas contemporain nécessairement, sauf chose, la technologie.
Puis autre chose qu'on faisait à l'époque, ben avant le baroque, mais mettons qu'on reste au baroque, c'était que quand on écrivait une œuvre sur du papier, c'était pas nécessairement pour tel ensemble. Ça pouvait être joué aux luttes, comme au clavecin, comme par un... Puis il y avait aussi l'idée de, comment on appelait ça dans l'accompagnement, le quelque chose concerto.
La basse continue.
La basse continue. Qui était, en fait, pouvait être joué par n'importe quoi, par un orchestre.
Oui, on improvisait. Hein? Il y avait une grande partie de la musique baroque qui était improvisée. On arrivait, on avait comme un sketch de base et puis on improvisait. C'était presque du jazz, d'une certaine façon.
Oui, mais ça, ça amène une chose. Là. C'est que l'idée, cette obsession-là pour l'œuvre finie a contribué grandement à l'atténuation et presque la disparition dans le monde classique, en tout cas de l'improvisation. C'est même devenu souvent un mot négatif, péjoratif, de dire, par exemple, le gouvernement improvise.
Oui, tu vois? C'est vrai.
Oui, puis donc, aujourd'hui, en classique, bon, il y a ceux qui sont spécialistes de la musique baroque, là, je pense à Richard Paré chez nous, qui est justement un très bon improvisateur, puis qui essaie de ramener cette idée-là d'improvisation. Il y avait ensuite, comment on appelait ça, donc les cadences que les chanteurs ou les instrumentistes lors de concertos, ils improvisaient une partie, il y avait une section où c'était vu comme étant le moment où l'instrumentiste ou le chanteur, la chanteuse pouvait se mettre en valeur, puis donc il y avait ça, mais on l'a plus en plus parce que ça devenait... encombrant, ça devenait trop important. Donc, on s'est mis à écrire, donc à fixer les fameuses cadences pour pas que ça nuise à l'œuvre, en fait, pour pas qu'on déconnecte l'interprétation de l'œuvre dans laquelle elle est supposée de se situer. Puis donc, il y a toujours cette idée-là de quelque chose qui existe, qui est fixe, qui est important, qu'on doit respecter, puis tellement qu'à un moment donné, il y a de moins en moins de place à l'improvisation, mais il y a eu des réactions, puis je vais finir avec ça, Gérald, je te laisse aller après. Il y a eu des réactions beaucoup au 20e siècle, là, par exemple, de la musique où on fait intervenir des mouches qui atterrissent sur la partition, puis là, on joue, ou bien le hasard, ou peu importe, oui, là, oui. De John Cage à plein d'autres là, qui se sont inspirés de ça pour justement déconstruire cette idée-là, pour essayer d'aller dans l'autre sens,
exactement.
Dans l'autre extrême.
Déconstruire le concept d'œuvre, qui est un concept qui lui restreint, si on peut dire, l'idée de créativité et de création qui le restreint à la notion d'œuvre, justement.
Oui, mais en fait, en plus, ce que je trouve épouvantable, c'est que le mot « œuvre », lui, implique un processus. Une œuvre, c'est quelque chose que tu travailles. Donc, c'est le processus, mais on l'a transformé. Ça me fait penser, moi, au mot « Canada ». Le Canada, ça visait, en fait, ça décrivait non seulement une région, mais un peuple francophone ici. Puis, tout à coup, on s'est mis à appeler le Canada français. Puis donc, ensuite, c'est devenu plus large. Puis c'est la même chose pour les Amériques, qui est devenu l'Amérique, puis qui est devenu les États-Unis. Donc, c'est la même chose qui s'est passée avec le mot « œuvre ». On a restreint avec le temps sa signification, si on va voir là, toute l'étymologie du mot. C'est pour ça qu'il y a un livre que j'adore qui s'appelle, c'est par Gérard Genette, encore une fois, qui appelle son livre « L'œuvre de l'art ». Non pas l'œuvre d'art, mais il veut montrer que justement, l'art, c'est une œuvre dans le sens que c'est un processus. Puis lui, ce qui l'intéressait surtout, c'était la relation esthétique, puis bon, qu'est-ce que... Mais cette idée-là est très importante, je trouve. Puis c'est, si on pouvait ramener l'expression « œuvre d'art » à justement son étymologie, on reviendrait à l'idée d'une production. Quand on parle d'une production, là, il y a encore une fois ce cheminement-là qui est intégré dans le mot. Puis c'est pour ça que c'est intéressant, un mot comme ça. Mais lui aussi... Malheureusement, on lui donne de plus en plus une nature fixe. Ça, c'est une production, en voulant dire, ben, c'est le résultat de la production.
C'est pour ça qu'on a commencé la discussion de cette façon-là, la dichotomie entre production et création, alors que dans la réalité, c'est deux fois la même chose. C'est un processus qui est intégré. C'est deux mots qui vont ensemble, quoi.
Oui, exactement. En fait, autrement dit, on pourrait dire, en tout cas, du moins si j'ère, J-E-R-R-E, mais on pourrait dire que la création est un sous-ensemble de la production. C'est-à-dire que c'est une sorte de production. Il y a de la production de n'importe quoi, on produit des idées, on produit des meubles, puis on produit des œuvres d'art, ou on produit de la musique, mais il y a un processus en particulier qui est la création, un processus de production qui est la création artistique, qui est une forme de production, puis qui va intégrer toutes sortes d'étapes, toutes sortes de cheminements, de collaborations, puis de... Voilà.
Ben oui, exactement. Que ce soit, lorsqu'on parle du processus créatif, on peut relier le processus créatif à toutes sortes d'éléments, là, ça peut être la production d'une cabane, ça peut être la production d'un grand œuvre. Donc ça, le processus créatif, c'est le même. Par contre, nous, on a bien voulu, et on en est encore un peu coincé, là, faire une grande séparation entre ce qui serait des œuvres d'art en tant que telles, des vraies, là, et avec des vrais artistes, et bon, ce qui apparaît un petit peu plus populaire,
fonctionnel,
le fonctionnel et tout ça. Donc, cette dichotomie-là relève, à mon avis, de classe sociale, de format aussi relatif avec marché, avec tout ça. Et donc, on perçoit comme vulgaire tout ce qui n'est pas la grande œuvre et tout ça. Donc ça, à mon avis, c'est une psychologie européenne. Parce qu'on, je peux étendre parce que c'est vrai, ça existe aussi, ayant voyagé là, dans à peu près toutes les cultures. Ça existe en Inde, ça existe en Chine. Mais pour moi, c'est une manière de se distinguer et de distinguer sa classe sociale, alors que le processus créatif, lui, ne fait pas ces distinctions-là.
Oui, puis j'irais un peu plus loin, là. En fait, un peu plus bas, tu vas comprendre. Souvent, la distinction se fait, mais si on regarde comme il faut, c'est que tel type d'œuvre ou de processus ne sera pas, comment je dirais ça, n'entre pas dans les paramètres des programmes de subvention donc, ou des commandes. Et donc, on ne fera pas ça. Puis donc, si on fait une toune pop, bien ça, on va aller chez Musique Action dans telle catégorie. Mais on a plus de chances, peut-être, si on fait de la musique d'art, comme il y en a certains qui appellent ce qu'ils font, la musique d'art, bien comme ça, on va avoir accès à d'autres types de subventions.
Exact.
Puis donc, la musique de film, ça va être autre chose, même si ça peut être aussi complexe ou pas que la musique d'art.
Mais ça, c'est intéressant parce que musique de film, elle n'a pas, elle a un territoire beaucoup moins formaté. Je dirais que la musique de film peut sauter du techno au classique, au romantique, au pop dans le même film.
Oui, puis à la musique contemporaine. Je veux dire,
oui, tout à fait. Oui, oui.
C'est ça, mais, ah, mais ça, c'est une longue histoire aussi, ce qui s'est passé au cinéma, là, l'histoire avec la SCAP, puis donc les compositeurs, qui étaient, c'était seulement un groupe de compositeurs, puis c'est avec des films comme Blackboard Jungle en 54, je pense, 53, qui est sorti, 55, qui est sorti le film, puis dans lequel ils ont mis une chanson rock, chanson rock and roll, qui s'appelle Rock Around the Clock, mais faut savoir,
Blackboard Jungle,
c'est ça. Mais il faut savoir que ceux qui ont composé Rock Around the Clock sont de la Tin Pan Alley, donc de la SCAP quand même. Ils ont décidé de faire ça. Mais ça a ouvert la porte quand même ensuite à tous les autres, puis à cette idée-là d'intégrer du pop et du classique. Et même encore aujourd'hui, on a la même chose. Là. C'est qu'on va, on va écouter, par exemple, je ne sais pas moi, la musique de film dans lequel il va avoir l'orchestre et tout, comme dans ce que faisait Kongold, Steiner, puis ensuite tous les autres, John Williams, puis voilà.
Mm-hmm.
Mais tout à coup, il va avoir une chanson pop ou du jazz ou de la musique du monde, comme tu dis très bien. Puis là, aujourd'hui, on est rendu plus loin. C'est Hans Zimmer aujourd'hui, formation classique, mais oups, il y a dans sa cabane où il y a plusieurs étages, puis il y a un gros team, il y en a qui travaillent sur les sons de synthé, puis ils vont amener d'autres choses, ils vont mélanger, en fait, des genres dans la même musique. Ça aussi, là, il y a des films mémorables pour ça, là. Puis moi, comme le film Trafic, dans lequel la musique, moi, elle m'avait frappé, cette musique, parce qu'elle était électronique, d'arrière-plan, mais très... construite aussi, comme si c'était une musique de film classique, mais fait à l'ordinateur, fait avec des synthés, puis avec des ambiances. Puis pour moi, c'est un des premiers films, un des premiers films où vraiment on a cette espèce de peut-être pas un des premiers, là, parce que bon, tout à coup, je pense à plein d'autres, là. Donc, il y a eu plusieurs films où on a quand même, je pense à un autre film des années même 50 ou début 60, comment ça s'appelle, c'est un film de science-fiction dont j'oublie le titre, puis il va falloir que je le rappelle aux auditeurs, mais dans lequel ça n'était fait qu'avec de la musique, avec des synthétiseurs, mais c'était le synthétiseur de l'époque, là, il y avait deux sons, trois sons, mais ça correspondait à l'univers galactique.
C'était Kubrick, ça, c'est-tu un film
non,
de Kubrick?
Non, c'était avant Kubrick encore. Oh, oui.
Avant, OK.
Ah oui, oui. Puis c'est un film des années 50, là.
OK.
Oui, puis c'est pas perdu dans l'espace, là, mais c'était un espèce de... Je retrouverai, en tout cas, puis je mettrai un lien pour les auditeurs. Mais donc, il y a eu des précurseurs, mais avec Trafic, je trouve que là, ça a lancé une espèce de... Ça a ouvert encore plus large des possibilités d'intégrer, de faire interagir des genres musicaux, des sons, des sources musicales, puis donc d'arrêter cette distinction-là. Je trouve, puis c'est ça peut-être le crime de la musique de film, c'est qu'on ne distingue plus... on ne cherche plus à distinguer la grande musique de la musique populaire ou de la musique du peuple, tout ça. Tout est comme reconnu. Puis je dirais même dans les jeux vidéo, ça sert aussi à ça. Donc
c'est le contexte, hein? C'est le contexte qu'ils mettent en valeur, parce que le film est là pour nous raconter des histoires, et ces histoires-là surviennent dans un espace contextuel particulier. Donc, si, par exemple, on fait allusion, par exemple, à quelqu'un qui fait partie d'une élite, bon, on peut entendre en background, on peut émettre et créer de la musique classique, la musique qui évoque le classicisme, mais un petit peu plus loin dans le même film, là, ben, ici arrive quelqu'un avec un bicycle à gaz ou whatever, une motocyclette, un moto-moteur, je ne sais pas comment. Je ne rappelle pas du terme français, ben là, on peut mettre une musique un peu plus rock. Donc, le film, lui, va se servir de la musique comme un personnage extrêmement important parce qu'il va gérer, il va générer plutôt une émotion à un autre niveau que juste l'image.
Mm-hmm. Non, mais c'est fabuleux, ça, en fait, le pouvoir de la musique au cinéma. Pas juste la musique, là, le son aussi. Là. Mmh. Il y a un auteur incroyable là, que j'aime bien, le français Michel Chion, qui a développé plusieurs concepts, mais dont un qui est la synchrèse puis l'audiovision, puis qui, en fait, qui explique, en tout cas, qui tente de théoriser notre relation, l'espèce de relation qui s'établit entre le son et l'image au cinéma. Mmh. Et cette relation-là ne peut survenir autrement. Il faut qu'il y ait à la fois une image, puis du son, puis là, se crée cette interaction-là qui fait que, par exemple, là, mettons qu'on regarde un film au cinéma, puis il y a un son qui vient de la gauche, là, mais qu'il est à l'écran, que la source est à l'écran, ben le cerveau, lui, va dire le son est au centre, le son vient de la source, parce que nous, dans la nature, c'est comme ça qu'on est fait. Puis donc, il y en a qui vont exploiter cette relation-là de synchrèse ou d'audiovision.
Explique-nous un petit peu pour l'auditeur moyen, synchrèse, parce que
ben, synchrèse, c'est
mot,
ça.
On est habitué au mot synthèse, mais synchrèse...
Ben, synchrèse, c'est justement la synchronisation de l'image et du son crée un espace particulier qui fait que là, tout à coup... même si l'image dans la physique, physiquement, que l'image et le son sont séparés, même sur des pistes séparées, puis même dans les haut-parleurs versus une image, le cerveau, lui, va les fondre ensemble. C'est ça, la synchrèse.
Et c'est donc, ce qui se passe. Intéressant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Oui. Cette forme de néologisme-là est beaucoup plus abondant en France qu'au Québec.
Oui, ça, c'est sûr. Moi, c'est sûr. Puis il y a toujours le même problème de comment il va les traduire après ça en anglais, etc. Mais bon, mais ça a été vraiment pas mal dans la théorie de la musique de film, là, puis en fait, la musique de film, du son au cinéma, ça a été pas mal utilisé. Puis donc, ça peut aller plus loin. On s'éloigne un peu, mais de création et production, mais pas tant. Dans le sens que on peut aussi produire nous-mêmes notre bande visuelle à l'aide de la bande sonore. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous avez votre iPhone, vous avez vos écouteurs, mm-hmm. votre casque, vous vous promenez en ville, et bien là, tout à coup, il se fait un film chez vous. Le processus d'audiovision survient, puis donc le processus de synchrèse, mais c'est vous qui en êtes comme
l'acteur principal.
L'acteur principal, puis d'une certaine manière, l'auteur, parce que c'est vous qui allez fixer votre regard à quelque part, puis là, il s'établit des relations entre ce que vous écoutez puis ce que vous voyez, qui est très particulier, puis qui est très agréable souvent, qui est même bouleversant parfois, pour toutes sortes de raisons, soit de contraste, soit de convergence inattendue. Surtout, moi, ce que j'aime, c'est un autre concept qui s'appelle la supradiégèse. Puis ça, c'est pas français. C'est un Américain, imagine-toi donc. Il s'appelle Rick Altman. Puis lui, c'est un autre effet du même genre qui montre encore une fois que ce type de création, de production qu'on fait au cinéma, en musique, est très différent. C'est l'idée que les sons, quand il y a des sons, quand il se passe quelque chose, par exemple, des danseurs ou une comédie musicale, pense à une comédie musicale, par exemple, à Le Magicien d'Oz. Quand Le Magicien d'Oz, quand les gens commencent à chanter dans Le Magicien d'Oz, bien, on peut avoir l'impression que tout à coup, tous les éléments qui sont visuels dans le film, à l'écran, se synchronisent. Deviennent subordonnés à la musique rythmiquement.
Ouais. Et j'ai envie de donner tout de suite un exemple pour atterrir sur le plancher des vaches le plus possible. lorsqu'on conduit, qu'on fait un road trip aux États-Unis, puis qu'on met un fond de musique rock, ben là, on est dans notre propre film, et puis là, tout ce qu'on voit s'interprète, s'amalgame, se synchronise, pour reprendre le concept, avec notre trame sonore là, qui est dans notre voiture.
Ouais. Puis là, on parle de vision puis d'audition, mais tous les sens peuvent faire partie de cette synchrèse-là. Là. C'est, je veux dire, ça peut être des odeurs, un lieu que tu arrives, puis il y a des souvenirs qui arrivent en plus de ça, puis exact. Il fait chaud, il fait froid, je ne sais pas quoi. Toutes les sensations peuvent se mélanger. C'est ce qui donne, c'est ce qu'on essaie de faire, entre autres, au cinéma. Souvent, là, quand une musique de film ou du son nous touche au cinéma, c'est parce que on a exploité d'une superbe manière, admettons, en tout cas, très efficace au moins, cet effet-là de synchrèse. Tout ça pour dire que, à mon point de vue, le cinéma et le jeu vidéo sont intéressants de ce point de vue-là, dans le sens où ça vient briser des barrières.
Mm-hmm. Voilà.
Puis ça favorise l'interaction puis l'hybridation. Puis c'est une des raisons aussi pour lesquelles, pour revenir à mon point de départ, que ça va être subventionné autrement, puis qu'un compositeur de musique de film va être moins reconnu qu'un compositeur de grande musique qui a eu accès à telle subvention que ça va être joué dans telle salle de concert, alors que la musique, elle peut être premièrement, c'est comment on fait pour évaluer si une musique est bonne ou pas bonne, mais je veux dire que ça peut être formellement très, très semblable. Ça pourrait même être, à la limite, la même pièce, mais une qui est dans un film puis l'autre qui n'est pas dans un film. Puis voilà, on ferait cette distinction-là, alors que il n'y en a pas de distinction, tu vois.
Mm-hmm.
Donc, ça me taraude pas mal, là, cette espèce de lien-là. Puis quand on me dit qu'il n'y a pas de lien entre la musique d'art et le commerce, ben je suis très désolé.
Oui, puis pour revenir à notre thème, finalement, parce que là, c'est dans le contexte où je mettais dans une case à part l'élément de la musique de film, étant donné qu'elle est dans une dynamique moins formatée.
Oui.
À cause, justement, de la multiplicité des ambiances qu'un film peut apporter, qu'elle est nécessairement moins formatée. On parlait, production-création, où là, que ce soit de la danse baroque, de la musique baroque, ou quel que soit le type, il y a une forme formatée. On parle, par exemple, du rock progressif ou de la musique romantique qu'on appelle les poèmes symphoniques à l'époque. On a beau dire que c'est moins formaté, et c'est vrai, mais n'empêche qu'il y a une structure qui revient, il y a une idée, il y a un concept qui revient, qui fait en sorte qu'on est en mesure de distinguer et de l'utiliser dans un tel contexte.
Oui, mais en fait,
savoir comme tel.
Une petite nuance qu'on pourrait faire, c'est que c'est pas tant moins formaté que c'est formaté autrement à d'autres fins.
Oui,
voilà. Puis que ça, voilà. Écoute, moi, sais-tu ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de proposer aux auditeurs qu'on fasse une émission, un podcast, un balado strictement sur la musique de film, puis la musique de jeux vidéo, si on veut, puis peut-être avec un invité ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est un sujet fascinant là, qui vient toucher à notre sujet d'aujourd'hui, mais je trouve qu'en parlant, que ça pourrait être vraiment intéressant d'en faire le sujet d'un balado. Qu'est-ce que tu en penses, Gérald?
Ah, c'est une excellente idée. D'ailleurs, je vais tout de suite, ça me donne l'idée de communiquer avec un étudiant que j'ai eu qui travaille justement dans le domaine de la composition, création, production, puis ça comme vous voulez, de musique pour jeux vidéo, justement. Donc, ça pourrait être très intéressant de l'avoir comme invité. Je vais voir s'il est disponible et si ça l'intéresse. Ça serait vraiment génial.
Moi aussi, j'aurais un invité. Je ne sais pas si ça va être disponible et que ça va l'intéresser, mais je sais qu'il a fait de la musique là, pour soit pour des DVD d'éducation ou soit pour des documentaires. Il s'appelle Gérald Côté.
Oui, c'est vrai, j'ai fait ça par le passé, c'est vrai.
Mais en tout cas, on pourrait certainement là, développer là-dessus autour de ta propre expérience et d'inviter, là, ça serait vraiment intéressant.
Absolument, génial.
Et Gérald, voilà, ça tire à sa fin notre épisode aujourd'hui, le 11e. Encore une fois, on invite les auditeurs à venir sur la page Facebook. venir nous proposer des idées de thèmes et tout, puis réagir aussi à ce qu'on dit. Parfois, on émet des opinions, hein, Gérald, assez fortes. Fait que peut-être que...
Oui, ben, on se laisse un peu aller. Hein. On n'a pas la prétention de détenir la vérité. Donc,
Exactement. Non, mais en tout cas, on donne notre opinion.
Voilà.
puis on espère que ça fait réagir positivement ou négativement les auditeurs. Puis on voudrait vous lire, puis réagir à ça. On est ouvert à tout, en fait.
Vraiment, tout à fait.
Ben, merci beaucoup, Gérald, puis à la semaine prochaine.
Absolument. À la semaine prochaine, voilà. Pourquoi j'ai dit absolument? À la semaine prochaine.
Bye-bye.
Salut.